La Bible a une seule et grande finalité, c'est de ramener à Dieu une humanité perdue qui, de son côté, ne pense, elle, qu'à s'éloigner de Dieu pour essayer de l'oublier définitivement. L'objectif majeur de la Bible, c'est d'établir un niveau de connaissance objectif et indiscutable sur Dieu, mais aussi sur l'humanité. Et je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que l'Évangile, c'est-à-dire le don de la personne de Jésus-Christ, c'est la pièce maîtresse de l'œuvre de Dieu en ce qui concerne le salut de l'humanité. Et donc, l'objectif premier des évangiles, c'est de montrer que l'homme ne peut accéder à Dieu que par une transformation spirituelle, que seul Dieu lui-même peut accomplir. Et c'est pourquoi le but de l'évangile, c'est de faire en sorte que par Jésus-Christ, les vérités indiscutables concernant Dieu deviennent des vérités vécues et ancrées dans les individus que nous sommes. Qu'est-ce que nous savons de Dieu ce matin? Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu ce matin? Quel est notre lien d'intimité avec Dieu ce matin? Si je vous posais la question, est-ce que vous connaissez le président de la République? Il y a plusieurs réponses possibles. Oui, je le connais, j'ai plein d'infos sur lui, je suis son parcours, tout ce qu'il fait. Alors je vous dirais, ben, vous êtes très bien renseigné, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Si vous étiez de sa famille, un cousin, un oncle, une tante, vous pourriez dire, je le connais, je l'ai vu grandir, j'ai passé du temps avec lui pendant des rassemblements de famille. Alors je vous dirais, c'est une connaissance plus intime, mais c'est quand même encore un peu superficiel. Par contre, si vous étiez son père, sa mère, ou son fils, sa fille, vous pourriez dire, je le connais, parce que l'intimité quotidienne, la filiation, fait que l'un et l'autre sont unis par les liens génétiques et psychologiques, qui sont extrêmement forts. Ce sont trois façons de connaître, mais une seule est une connaissance intime. Si je vous posais la même question sur Dieu, dans quelle catégorie seriez-vous? J'ai des infos sur Dieu? Je le côtoie? Je vis dans sa maison? Je vous invite à répondre à cette question aujourd'hui, parce que c'est une question grave. On peut se tromper sur la façon dont on connaît Dieu, mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Parce que nos vies, ce sont nos vies qui renseignent Dieu sur la réalité de notre relation avec lui. Alors s'il faut changer quelque chose, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Parce que demain sera peut-être trop tard. La Bible nous dit que nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Dieu aujourd'hui encore se révèle, soit directement au cœur des hommes, soit par sa parole. Le test pour une véritable révélation étant que celle-ci soit conforme aux Écritures telles que nous les connaissons. À titre individuel, le Seigneur s'est révélé à moi avant que je lise les Écritures. Et j'ai eu la surprise de réaliser que ce que je savais de Dieu, eh bien, c'était marqué dans la Bible. D'autres lisent la Bible et ont une révélation de Dieu dans la Bible. Mais Dieu fait tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Je crois que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de prophétie et que son enseignement est destiné à prendre les vérités qui sont dans la Bible, les vérités objectives concernant Dieu, pour les rendre vivantes et vraies en nous. Et c'est ça la révélation. Exemple, Dieu est amour, dit la Bible. C'est une vérité objective concernant Dieu. Mais à quoi ça me sert de le savoir si moi, Daniel, je ne connais pas l'amour de Dieu dans mon cœur et si je ne suis pas capable de le donner autour de moi? Ça reste vrai pour Dieu, mais ça n'est pas pour moi. La Bible a été inspirée par Dieu à des hommes choisis par Dieu pour qu'ils y inscrivent des vérités à propos de Dieu, du Messie, Jésus-Christ, et du besoin du salut de Dieu pour les hommes. C'est ce que dit Paul dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17, que vous connaissez bien, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dans ce passage, Paul exhorte Timothée à demeurer dans son enseignement. Son enseignement, c'était quoi? C'était un mixte entre ce que Paul avait appris lui-même en tant que pharisien. On sait qu'il était très lettré, qu'il avait beaucoup de connaissances, et la connaissance de Dieu qu'il avait eue lors de cette révélation sur le chemin de Damas, où Dieu lui a parlé directement. Et ce que Paul a enseigné à Timothée, c'est nécessairement un ensemble de toute son expérience avec Dieu. C'est-à-dire, cette connaissance pharisienne lettrée qu'il avait de la Bible, additionnée de la révélation vivante de Dieu dans son cœur. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Ce que tu as appris quand tu étais petit, alors, on va s'en saisir et je vais t'enseigner ces choses, les choses de Dieu au travers de ce que tu as appris et de la réalité de l'expérience vécue de Dieu en moi. Et c'est ça que je vais t'apprendre. Et une chose, n'est-ce pas, la première leçon que Paul a appris de la part de Dieu sur le chemin de Damas, c'est que lorsqu'on persécute l'Église, c'est Christ que l'on persécute. N'est-ce pas? Puisque Jésus lui a dit, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » Alors qu'il était parti pour persécuter des chrétiens. Et donc, on voit, n'est-ce pas, le lien qu'il y a entre les choses naturelles, entre quelque chose qui, comme l'Église, cette église que nous sommes là, peut-être ce matin, et le lien qu'il y a avec Christ. L'église, c'est Christ. Christ, c'est l'église. Timothée avait appris les Écritures depuis sa plus tendre enfance. Et Paul s'était donc saisi de cette connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament pour lui enseigner le salut par la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés, mais aussi la délivrance de la puissance de la vie charnelle qui ne produit pas des fruits destinés, qui ne produit que des fruits destinés à la corruption et qui sont donc le contraire des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes ou des œuvres justes dont il est question dans le texte que nous venons de lire. L'apôtre Paul s'est souvent appuyé sur les récits de l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël pour illustrer ses propres enseignements. Et il est dit, donc il dit, ils sont pour notre exemple, c'est ça que l'apôtre Paul a dit, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et j'aimerais que l'on voit donc trois situations vécues par le peuple d'Israël et qui correspondent à trois catégories d'hommes. On verra successivement Israël en Égypte, Israël en Canaan et Israël dans le désert. Avant ça, j'aimerais prier. Seigneur, merci de nous guider dans ta parole. Merci de nous guider, Seigneur, dans la connaissance de toi. Seigneur, tu nous as laissé toutes ces choses afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions savoir qui tu es, mais aussi savoir qui nous sommes. Et Seigneur, l'histoire du peuple d'Israël, c'est un enseignement pour nous aujourd'hui, qui sommes le peuple racheté. Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses, les prendre dans notre cœur. Seigneur, et que nos vies puissent être transformées encore aujourd'hui même. Amen. Donc en Égypte, quand la Bible parle de la chair, elle ne parle pas du corps. Elle ne parle pas de ces nerfs et de cette peau qui se met sur les os desséchés. Quand la Bible... Parce que bon, le corps en lui-même n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais la chair, c'est le principe du péché, en fait. C'est ça que la Bible appelle la chair. Dans Marc 7, au verset 20, Jésus dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. » Ça, c'est l'œuvre de la chair. L'Égypte, pour le peuple d'Israël, représente la nature pécheresse de l'homme. Et les Égyptiens représentent la tyrannie du diable qui maintient l'homme en esclavage. Vous vous rappelez que lorsque Joseph est allé en Égypte, finalement ses frères l'ont rejoint là-bas et Israël s'est développé en Égypte. Et 400 ans après, s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Donc, l'Égypte, c'est l'esclavage. Et ça représente notre nature pécheresse. Et les Égyptiens, je le répète, représentent la tyrannie du diable dans cet esclavage. Et Paul exprime ça dans Romains 7, au verset 19 à 20, avec ces paroles qui sont magnifiques, mais qui concernent un homme esclave. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est bien la définition d'un esclave, quelqu'un qui n'est pas libre de faire ce qu'il souhaite faire. Quand on n'est pas libre de faire le bien qu'on a envie de faire, ça veut dire qu'on est esclave de quelque chose qui est plus fort que nous. Et plus loin, dans le chapitre 8, verset 7, il affirme que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut pas même se soumettre. Il y a une impossibilité, n'est-ce pas, qui est encore celle de l'esclave. Prisonnier, esclave de Satan, l'homme qui voudrait plaire à Dieu ne le peut pas. Il faut que Dieu vienne pour le délivrer. Alors, Dieu est venu. Il est venu pour délivrer son peuple. Il est dit qu'il a entendu la souffrance de son peuple et il est descendu pour délivrer son peuple. Et vous connaissez l'histoire des 10 plaies qui étaient là pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Et il y a cette dernière plaie. La dernière plaie est celle qui parle de la mort des premiers-nés des Égyptiens. Chaque famille d'Israël, dans sa maison, devait prendre un agneau, mâle, sans défaut, âgé d'un an. Et le jour venu, cet agneau qui devait être tué et cet agneau devait être tué et mangé à la hâte, debout et équipé comme pour partir immédiatement. Et le sang recueilli devait servir à badigeonner les poteaux et le linteau de la porte d'entrée des maisons. C'était la première Pâque. La Pâque de l'Éternel. Alors, dans la nuit, Dieu est passé. Et partout dans le pays d'Égypte, où le sang n'était pas appliqué sur les linteaux et sur le cadre de la porte, eh bien, les premiers-nés mouraient. L'agneau sans tache préfigure l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus de cette façon-là. Le sang sur les montants et le linteau, c'est le sang de Christ. C'était déjà le sang de Christ qui coule pour le pardon de nos péchés. Et la seule chose que devaient faire les Hébreux, la seule chose que Dieu leur avait demandé de faire, n'est-ce pas, c'était d'appliquer le sang par la foi. C'est-à-dire qu'il leur demandait de croire qu'en appliquant le sang sur la porte, sur les cadres de la porte et les montants, il leur demandait de croire que leur premier-né serait préservé. Et ils l'ont fait. Et effectivement, tous les premiers-nés d'Égypte et tous les premiers-nés de ceux qui n'avaient pas le sang sur le linteau et sur le cadre de la porte, eh bien, sont morts. Mais pas ceux qui avaient appliqué le sang. C'est tout ce que Dieu demande aux pécheurs. D'appliquer par la foi la mort de Christ et le sang qui a coulé sur la croix, de l'appliquer sur le cadre de la porte de leur vie et de le remercier. Il n'y a rien à mériter. C'est le don de Dieu. C'est ce que personne ne peut acheter, que personne ne peut mériter, que personne ne peut faire quelque chose pour que Dieu lui donne cela. Dieu le donne à qui il veut. Il donne Jésus-Christ, lui le juste, mort pour les injustes. Plus loin, dans l'histoire du peuple d'Israël, vous le savez, ils sont poursuivis par Pharaon, qui a changé d'avis. Et ils se trouvent, le peuple d'Israël se trouve face à la mer Rouge. Et là, ils sont coincés, parce que devant il y a l'eau, et derrière il y a toute l'armée de Pharaon qui arrive à toute vitesse. On va lire le passage dans Exode 14, au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. L'apôtre Paul dit à propos de ce passage, dans 1 Corinthiens 10, au verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Dans Romains 6, verset 3, l'apôtre Paul toujours dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est ça l'enseignement que Paul donnait à Timothée. Les Égyptiens sont morts là où tout le monde, les Égyptiens et les Israélites, pensaient qu'ils allaient mourir. Les Égyptiens pensaient que les Israélites allaient mourir à cet endroit-là, puisqu'ils les chassaient. Et Israël pensait qu'ils allaient mourir aussi à cet endroit-là, puisque les Égyptiens arrivaient. Mais finalement, ce sont les Égyptiens qui sont morts à cet endroit. Parce que le peuple de Dieu a été miraculeusement sauvé. Et de la même façon que les Égyptiens ont été ensevelis, notre nature pécheresse a été ensevelie avec Christ, afin que nous soyons délivrés de la puissance de la chair, de la puissance du péché. Christ, non seulement est mort, et il a été puni de la punition que nous méritions, mais aussi, il est mort pour que cette nature pécheresse soit ensevelie avec lui. Et cette nature n'a pas ressuscité avec lui. Notre nature pécheresse est ensevelie avec Christ aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Christ est ressorti du tombeau et la nature du péché est restée enterrée à cet endroit. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'appliquer le sang sur le linteau de notre vie, de nous identifier à Christ, à sa mort, par la foi en lui-même, en ce qu'il a accompli. Ça, c'était l'Égypte. Le but de Dieu, c'était d'emmener son peuple dans le pays promis, le pays de Canaan. L'entrée dans le pays de Canaan, ce n'est pas l'arrivée au ciel. Canaan, c'est Christ lui-même. Et l'apôtre Paul exprime cela de la façon suivante. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans Romains 5, au verset 10, il dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La vie de Christ, ce n'est pas notre vie naturelle, la vie naturelle des hommes qui serait boostée tous les dimanches matins au culte pour qu'on puisse garder la tête hors de l'eau toute la semaine. La vie de Christ coule dans le croyant, comme la sève du cep coule dans le sarment, de sorte que l'un et l'autre se confondent parfaitement. L'apôtre Paul dit à ce sujet, Romains 6, verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Canaan, c'est le salut tous les jours. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et si la vie de Christ coule en nous, alors nous possédons à demeure le remède contre la mort, à condition que nous demeurions en Christ. Christ n'est pas seulement mort pour prendre notre péché et pour souffrir la punition que nous méritions. Il est aussi ressuscité pour vivre en nous et prendre la place de la personne que je suis. C'est ce qu'on appelle le principe de la vie échangée. C'est ma vie contre la sienne. C'est ça que Christ a fait. Il m'a donné sa vie et il a pris la mienne pour l'ensevelir avec lui. Sa force contre notre faiblesse, sa joie contre notre tristesse, sa sagesse contre notre inconscience, sa paix contre notre agitation, sa bienveillance contre notre dureté, sa liberté contre notre légalisme, sa foi contre notre inquiétude. C'est ça, Canaan. Est-ce que c'est ça notre expérience? Dieu voulait pour son peuple un pays où coule le lait et le miel. Et il veut la même chose pour son peuple racheté aujourd'hui. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Êtes-vous libre du péché ce matin ? Ah, mais personne n'est libre du péché. Bien-aimé, celui qui est mort est libre du péché. Et donc la question, c'est est-ce que nous sommes morts ou est-ce que nous sommes vivants ? Dieu veut que l'homme naturel, qui est donc le jouet du diable et qui est destiné à l'enfer, devienne un homme spirituel. L'homme de Dieu rempli de l'Esprit de Christ est mort au péché. Et il est vivant pour Dieu. Et il lui offre jour et nuit ses membres comme des instruments pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas ? C'est une mélodie dans le cœur, c'est un chant. C'est quelque chose qui nous emmène, qui nous transporte, qui s'impose en permanence, malgré les soucis de la vie. Ça, c'est Canaan. Alors pourquoi le désert ? Le désert dans nos vies, c'est la conséquence du péché d'incrédulité. Celui qui a déjà tout reçu de Dieu. Malgré la délivrance de l'ancienne vie, malgré le pardon des péchés et l'espérance merveilleuse qui est en Jésus-Christ, il reste possible de pécher. Et le plus grand péché des croyants, c'est l'abandon de la confiance en Dieu. C'est la marque de ceux qui se servent des bénédictions de Dieu, qui se servent dans les bénédictions de Dieu, plutôt que de servir Dieu. On lit dans le chapitre 13 du livre des Nombres que Moïse, à l'entrée du pays de Canaan, va envoyer 12 hommes pour voir qu'ils fassent un rapport de ce qu'il y a dans ce pays. Et ces hommes, ce ne sont pas n'importe lesquels. C'est l'élite du peuple. Ce sont des hommes d'influence. Et c'est eux qui l'envoient pour explorer le pays de Canaan, promis par Dieu aux enfants d'Israël. Et lorsque ces explorateurs reviennent, ils font un rapport au peuple et à Moïse. Et voici ce qu'ils disent. Vous lisez ça dans Exode 13, au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Si seulement c'était tout ce qu'ils avaient dit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron ont encore essayé d'exhorter le peuple à faire confiance à Dieu et à croire que tout se passera bien malgré des apparentes impossibilités. Mais au lieu de les écouter, le peuple menaçait de les lapider. Alors, Dieu s'est mis en colère. Et au verset 34 du chapitre 14, il dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Alors, à la vue de la colère de Dieu, le peuple a changé d'avis. Et ils ont décidé que finalement, ils iraient quand même. Mais Dieu n'était plus avec eux. C'était trop tard. Moïse les avait prévenus que c'était suicidaire de se lancer dans une telle opération sans l'aide de Dieu. Mais ils se sont lancés à corps perdu dans un combat dont la défaite était annoncée. Parce qu'il n'était plus temps pour eux d'entrer dans le pays promis, mais de tourner dans le désert. Le peuple dans le désert est un peuple qui a été sauvé miraculeusement par Dieu, qui a cru que Dieu les sauverait de la mort des premiers-nés, qui avait appliqué le sang sur le linteau et sur le cadre de la porte. Ils étaient les enfants de Dieu. Mais ce peuple a passé 40 années dans le désert. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Dieu ne voulait pas que son peuple souffre encore plus longtemps que ce qu'il avait souffert, que le temps passé en esclavage. Il avait prévu pour ses enfants un pays d'abondance et de douceur. Mais ils ont vécu dans le dénuement et la pauvreté, et ils sont morts dans le désert. Chaque jour passé au désert aurait dû être un jour passé dans le pays de Canaan. Et cela leur est arrivé à cause de leur incrédulité. Ils ont fait mine de croire que le Dieu qui les avait sortis d'Égypte en écrasant les Égyptiens n'était pas capable de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait donné. Dieu est capable de nous faire sortir, mais il n'est pas capable de nous faire entrer. C'était ça le message qu'il donnait. Le désert des Hébreux, c'est l'image actuelle du chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui a déjà tout reçu de Dieu. La délivrance de l'ancienne vie, le pardon des péchés, l'espérance merveilleuse qui est en Jésus-Christ. Mais qui vit dans l'incrédulité. Si nous sommes charnels, nous marchons dans notre propre cimetière. Ils sont morts dans le désert. Parce que Dieu a promis que toute la génération de ceux qu'il appelait les hommes de guerre périrait dans le désert. Il a fallu à Dieu 40 années pour faire comprendre à son peuple que la foi qui leur avait permis d'entrer dans le pays promis, que la foi qui permet d'entrer dans le pays promis, est la même que celle qu'il leur avait fallu pour sortir d'Égypte. Ce n'est pas une foi différente. Le chrétien charnel, malgré son appartenance au peuple de Dieu, malgré le Saint-Esprit qu'il a reçu, vit hors de la présence de Christ. Christ n'est pas sa vie. Il habite dans la maison du Père, mais le Père lui est inconnu. N'est-ce pas? Rappelez-vous l'histoire du fils prodigue. Ils sont deux fils, un qui part et qui revient, et un qui râle parce qu'il ne connaît pas l'amour du Père. L'homme charnel est sans cesse en train de demander des comptes à Dieu. Mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Quand tout va dans le bon sens, il est content. Mais quand il n'a pas ce qu'il veut, il se plaint. Bien-aimés, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout reçu de la part de Dieu. Tout dans la maison du Père nous appartient. Il n'y a qu'à se servir. Nous n'avons plus besoin de mendier auprès de Dieu pour nos besoins propres. La météo, l'argent, toutes ces choses, Dieu les fournit à ses enfants. Et on voit bien, n'est-ce pas, la différence de perception qu'il y a entre Simon-Pierre, le disciple de Jésus-Christ, homme charnel, et Paul, l'apôtre Paul, qui a échangé sa vie avec celle de Christ. Dans Luc 18, au verset 28, on lit, Pierre dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. C'est pas la différence. Elle est là, c'est que derrière la déclaration de Pierre, quand il dit « Mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi », c'est « Et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que je mérite contre ça? Quelle place je mérite contre ça ?» Et l'apôtre Paul, j'ai tout reçu. Évidemment, il parlait de l'argent. Mais si vous lisez Philippiens, vous comprendrez vite que l'apôtre Paul dit ça parce que c'est sa façon de vivre, parce qu'il vit dans le contentement de façon absolue. Il a appris à vivre dans la disette, il a appris à vivre dans l'abondance. C'est ça qu'il avait reçu de Dieu. J'ai tout reçu, j'ai appris à vivre. Pour Paul, il n'y avait pas d'agenda caché, il n'y avait pas d'attente particulière. Dieu a tout fait, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. En conclusion, elle sera un peu longue, mais bon. Dans quelle situation sommes-nous ce matin? Est-ce qu'il est possible de se tromper sur la réalité de son état spirituel? Je ne prétends pas être en mesure de dire qui est sauvé et qui ne l'est pas. Mais il est vital pour chacun d'entre nous de le savoir. Si nous sommes incertains concernant notre salut, c'est que notre connaissance de Dieu est incertaine. Je le répète. Si nous sommes incertains à propos de notre salut, c'est parce que notre connaissance au sujet de Dieu est incertaine. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la place que nous donnons ou pas dans notre vie qui détermine la façon dont nous connaissons Dieu réellement. Le diable a toujours voulu prendre la place de Dieu. Mais pour prendre la place de Dieu, il lui fallait aussi posséder la reconnaissance qui appartient à Dieu. Et le psalmiste déclare, psaume 19, verset 1, que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La nature manifeste Dieu, mais seuls les hommes et les femmes peuvent confesser que Dieu est Dieu. En pleine liberté, l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève, se sont détournés de Dieu parce qu'elle a écouté les suggestions du diable. Et depuis ce jour, l'humanité est esclave de Satan. Dieu est un Dieu jaloux par nature. Ça ne veut pas dire qu'il fait des crises de jalousie, mais cela veut dire qu'il n'est absolument pas d'accord de vous partager. La seule place que Dieu veut, c'est la place de gouverneur de notre vie. Dieu veut récupérer ce qui lui appartient, mais à la seule condition que ce soit vous-même qui le lui donniez. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, le libérateur. Il est venu pour nous affranchir de l'esclavage du diable et pour proclamer aux captifs la liberté, pour que nous puissions en toute conscience, avec notre raison et notre cœur, confesser la seigneurie de Dieu. Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous devez absolument savoir si vous êtes chaud ou bouillant pour le Seigneur, ou si vous êtes tiède. Ainsi, Apocalypse 3, 16, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Tragiquement, les Écritures nous affirment à de multiples reprises que certains seront surpris lorsqu'ils feront face à leur Créateur. Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que je peux te poser la question de ton salut ce matin ? Est-ce que tu es sûr qu'à ta mort, tu seras avec Dieu au ciel ? Et si Dieu te demandait « Pourquoi est-ce que je devrais te laisser rentrer dans mon paradis ?» Qu'est-ce que tu lui dirais ? Bien-aimé, si vous êtes encore en Égypte, alors vous n'avez pas de réponse à cette question. Mais Dieu veut vous faire expérimenter quelque chose de rare, qui s'appelle la grâce. Il veut vous délivrer de l'esclavage du péché. Et pour cela, il a donné sa vie et son sang, qui a coulé pour le pardon de vos péchés. Mettez en lui toute votre confiance. Abandonnez-lui simplement votre vie et remerciez-le de ce qu'il vous sauve aujourd'hui. 1 Jean 5, 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ça, c'est pour ceux qui savent qu'ils sont encore en Égypte. Si vous êtes dans le pays promis, alors vous vous êtes réjouis des paroles que vous avez entendues ce matin. Et je n'ai rien à vous dire de plus. parce que vous faites partie de ceux qui sont déjà en train de régner avec Christ. 1 Jean 2, 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 5, 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est si vous êtes dans le pays de Canaan. Si vous êtes resté coincé dans le désert et que vous tournez en rond dans votre ornière, alors il vous faut mettre un coup d'arrêt à votre incrédulité. On peut croire juste dans sa tête et être incrédule dans son cœur. L'incrédulité vous éloigne toujours plus de la présence rassurante de Dieu. L'incrédulité s'est invitée dans votre vie lorsque vous avez cessé de dépendre de Dieu. Et aujourd'hui, il vous faut mettre l'incrédulité à la porte afin que vous puissiez à nouveau vous rapprocher de Dieu et croire qu'il vous aime et qu'il gère toutes les circonstances de votre vie. Que vous croyez que Dieu est votre victoire, qu'il est votre force, qu'il est votre futur sur cette terre et jusque dans la vie éternelle. Colossiens 2, 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Débarrassez-vous de l'incrédulité. Et redonnez à votre Seigneur toute l'autorité qu'il mérite dans votre vie. Faites-lui confiance à nouveau, comme au premier jour. Je terminerai par ces versets dans Deutéronome 8. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Que nous puissions juste prendre quelques minutes pour prier, que ceux qui veulent prier à haute voix le fassent. Si le Seigneur vous a parlé, répondez-lui maintenant. Seigneur, je prie pour que les uns et les autres nous soyons touchés par la profondeur de tes paroles et que nous soyons touchés aussi dans nos profondeurs. Seigneur, tu nous as donné une vie afin que, Seigneur, nous puissions vivre dans la joie de connaître le Fils de Dieu, de connaître sa présence en nous, Seigneur, et la partie de ceux qui glorifient ton nom, en pleine liberté, en pleine conscience. Seigneur, nous voulons nous repentir si nous avons fait preuve d'incrédulité dans notre vie, si aujourd'hui nous marchons plus dans l'incrédulité que dans la foi. Seigneur, que nous puissions mettre l'incrédulité à la porte, que nous puissions prendre cette décision de mettre un coup de volant définitif qui va nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes, afin que la nouveauté de vie reprenne sa place. Seigneur notre Dieu, merci pour ta patience, merci pour la vie et les jours que tu nous donnes dans notre vie pour que nous puissions nous mettre au clair avec toi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas abuser. Nous voulons aujourd'hui même, Seigneur, répondre à ton appel, afin, Seigneur, que notre vie désormais soit vécue pour toi et pas pour nous, pas pour nos propres arrangements, pas pour nos propres petites combines, pas pour les manipulations que nous mettons en place, même en te priant, Seigneur, mais pour que toi, tu sois honoré, pour que toi, tu sois le gouverneur de notre vie, pour que toi, tu sois celui qui soit vu à chaque fois que nous ouvrons la bouche, à chaque fois que nous nous déplaçons. Seigneur, que tout en nous parle de toi, parce que c'est ta volonté, parce que c'est ça que tu veux accomplir dans les hommes et les femmes qui t'appartiennent, et parce que tu n'es pas prêt à avoir un peuple de Dieu partagé. Tu veux un peuple qui soit à toi, et uniquement à toi, et tu ne veux pas le partager avec qui que ce soit d'autre, même pas avec nous-mêmes. Seigneur, reprends tes droits dans nos vies, reprends, Seigneur, tout ce qui est à toi. Seigneur, nous voulons nous abandonner complètement à toi, à ton nom, à ta parole, à ton caractère, à toutes tes bénédictions, à tout ton amour, à toute ta puissance. Toutes ces choses-là, Seigneur, sont à toi et tu nous les donnes. Nous voulons vivre dans la maison, Seigneur, comme des enfants, comme ceux qui savent à qui ils appartiennent, comme ceux qui savent que tout est à leur disposition. Seigneur, merci parce que tu nous demandes de faire cela juste par la foi. Tout le reste, c'est toi qui le fais. Que ton nom soit béni. Amen.